Comment les optimistes voient-ils le monde? Quelles qualités cultivent-ils? Comment s'entourent-ils?
Arriver le matin et avoir envie vraiment de se dépasser, donc comprendre déjà pourquoi on le fait, et en fait créer sa propre motivation.
Very Good Vibes, un podcast Men's Up, 100% optimiste, 100% énergie.
Bonjour et bienvenue dans Very Good Vibes, l'émission de tous les business leaders. Chaque lundi, on vous apporte votre dose d'inspiration positive. Et aujourd'hui, c'est Stéphane Kérol-Martinez qui va nous transmettre ses bonnes ondes.
Christelle Cronier.
Stéphane Kérol-Martinez est le directeur France de Womanity. Womanity, c'est une entreprise internationale qui coache tous les grands leaders. Une entreprise qui a 50 millions d'euros de chiffre d'affaires qu'elle double chaque année depuis 2013. Bonjour Stéphane.
Bonjour Christelle.
Vous accompagnez les grands dirigeants et les leaders de grosses entreprises hein, comme PSA, Vuitton, EDF, Total, Nike et bien d'autres. Alors, en quoi est-ce que l'optimisme est vraiment crucial pour ces entreprises?
Alors, l'optimisme est crucial pour les entreprises parce que d'abord et avant tout, ce n'est pas naïf.
C'est pas être naïf, c'est important.
Au contraire, c'est prendre énormément de recul. C'est avoir une capacité de créer de bonnes vibrations, de créer du leadership dans l'entreprise.
De l'espoir finalement.
De l'espoir, du sens, donner du sens, redonner du sens aux personnes quand elles viennent travailler. Donc c'est essentiel, aujourd'hui c'est même crucial pour pouvoir travailler dans un environnement de qualité.
C'est un peu ce que font les sportifs quand ils se construisent leur mental de champion au final.
C'est test and learn, c'est aussi d'ailleurs une des démarches que l'on met en place chez Womanity avec Jean-Christophe Canticello, cette démarche de l'esprit champion. Donc arriver le matin et avoir envie vraiment de se dépasser, donc comprendre déjà pourquoi on le fait et en fait créer sa propre motivation.
En discutant tout à l'heure, vous m'avez dit que la pugnacité était une valeur très importante pour vous.
Absolument, c'est savoir ne pas lâcher prise, savoir ce que l'on cherche à suivre, ne pas se laisser finalement détourner, être toujours dans ce côté n'abandonne jamais, vouloir aller plus loin, parce que finalement les seules limites qu'on peut avoir, c'est celles qu'on s'impose.
Ouais.
Donc essayer de ne pas finalement...
C'est important d'arriver à s'ouvrir des portes en fait dans la tête.
Absolument.
Pour tous les entrepreneurs, ça c'est quelque chose de primordial.
Pour tous les entrepreneurs, on se retrouve toujours...
Pour tout le monde, mais pour les entrepreneurs.
Pour tout le monde, pour les entrepreneurs, on nous présente souvent quelles sont toutes les difficultés auxquelles on va être confronté.
Ouais.
Et on avait quelques phrases comme celle-là, assez connues, notamment dans le monde militaire, pour pouvoir, ou dans le monde de l'innovation, en disant ne me parlez pas des problèmes que je vais rencontrer, mais plutôt des solutions que je peux apporter.
Ouais.
Donc c'est vrai que c'est quelque chose de... Finalement, c'est presque une hygiène de vie. La pugnacité est vraiment un élément premier pour se dire je mets les choses en perspective, je m'accroche véritablement. Je lâche pas, et en tout cas, c'est pas aux premières erreurs que je lâche. Il y a une petite formule qui est très amusante en ce moment, qui passe beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est l'image du lion qui passe 80% de son temps à chasser pour rien, et simplement 20% de son temps finalement pour quelque chose.
Je crois que c'était la lionne qui chassait.
Et pour autant, c'est le roi des animaux. Et pour autant, 80% d'échecs de son temps. Donc voilà, dans l'idée de la pugnacité, c'est essentiel.
Comment vous faites auprès des grands leaders alors pour impulser une dynamique positive dans leurs entreprises?
Alors on leur donne un nouveau prisme, et ce nouveau prisme, c'est déjà de faire confiance en fait finalement à leurs équipes. La bonne volonté est déjà présente chez les gens.
C'est dingue que ça n'existe pas en fait, c'est juste du bon sens basique quoi finalement.
Absolument, on va dire...
Retrouver ça dans les entreprises.
Mais c'est ça, aujourd'hui le premier prisme dans lequel on amène les dirigeants à réfléchir, c'est de revenir sur peut-être 3000 ans d'histoire, c'est-à-dire le bon sens, revenir à l'essentiel.
La transparence.
Transparence, communication, confiance, nous c'est notre triptyque. On se rend compte que la plupart des gens en fait ont perdu souvent le sens de leur travail. Sont un petit peu dans cette suite du fordisme et du taylorisme à faire des choses, mais finalement en oubliant la raison pour laquelle ils le font. Redonner du sens par rapport à ce qu'on souhaite faire, finalement c'est, on va dire, le fil un petit peu conducteur qui permettra donc par la pugnacité de retrouver des choses essentielles et, comme vous dites, du bon sens.
Montrer l'exemple et assumer ses décisions, peut-être, quelles qu'elles soient.
Alors ça aussi, c'est aujourd'hui, il y a énormément, hein, toutes les revues en parlent, c'est quoi être un bon manager, un manager coach, un manager agile. Oui, c'est le lead by example. C'est qu'est-ce qu'on fait qui me permet en tout cas de montrer moi aussi mes faiblesses. J'ai pas pour vocation de savoir tout faire. Par contre, j'ai pour vocation de savoir m'entourer, de savoir poser les bonnes questions. Donc oui, il y a ce côté aussi humilité, mais pas humilité dans les termes, mais humilité dans la posture, dans les comportements. C'est pour ça que le coaching aujourd'hui est un élément essentiel dans les entreprises, puisqu'on apprend vraiment à travailler sur l'humain.
Un exercice facile,
c'est ce qu'on met en place nous dans la plupart des structures où on intervient, c'est ce qu'on appelle une rétrospective. À l'issue d'un meeting, d'une réunion, même d'un échange informel, bah prendre 5 minutes pour discuter de ce qu'on a apprécié, de ce qu'on aimerait faire évoluer. Donc pas forcément pour identifier un coupable ou dire ça s'est pas bien passé, mais plutôt se dire bah la prochaine fois si je devais le refaire, comment je le ferais pour le faire mieux, en fait.
Une forme d'effet miroir.
Alors, un effet miroir, il y a des choses très simples dans cet effet miroir qui permettent de le dire. C'est savoir qu'on ne peut pas tout faire, ce que vous disiez tout à l'heure sur cette notion de zone de confort. On n'est pas en zone de confort, mais on peut se permettre de se projeter et se dire, bah, finalement, la prochaine fois, en faisant ça comme ça, bah, déjà, je peux tester. On vient sur le test and learn et ça permettrait d'aller mieux.
Vous appuyez beaucoup sur les neurosciences, je crois.
Alors, on travaille beaucoup avec les neurosciences. On travaille avec énormément de recherches aujourd'hui. Vous avez énormément de livres qui sortent sur la cinquième discipline. Vous avez beaucoup de choses qui permettent de travailler sur des aspects beaucoup plus, finalement, presque mentaux sur les personnes et pas juste sur des a priori ou sur des perceptions.
D'autres capacités d'apprentissage?
Absolument. Donc, sur les capacités d'apprentissage, vous avez énormément de gaming aujourd'hui.
Gaming,
donc,
c'est les jeux, en fait. C'est apprendre par les jeux.
C'est apprendre par un côté ludique.
Ouais.
On met les gens dans les mêmes situations, mais c'est simplement, on est sur une pédagogie inversée. On va permettre aux gens, finalement, de faire pour apprendre et plus seulement d'apprendre pour faire. On est vraiment dans une application et on va donner un objectif pédagogique. Donc, il y aura une ingénierie, on aura la même chose, mais de manière plus ludique, permettre aux personnes de ressortir de là et finalement, peut-être même dans leur moment personnel avec leurs enfants, leur famille, de se dire, bah, tiens, j'ai utilisé ça et finalement, c'est assez amusant et j'en ai appris quelque chose.
Donc, si vous vous demandez ce que font les managers, en fait, dans leur bureau, bah, ils jouent. C'est tout.
Alors oui, mais il est évident qu'en jouant, on apprend. Maintenant, l'objectif n'est pas que de jouer. C'est encore une fois un instrument pédagogique.
La performance,
mais oui.
Au service de la performance. Vous avez donc un haut poste aujourd'hui, mais j'imagine que ça n'a pas été sans heurts. J'imagine que pour y arriver, vous avez dû prendre peut-être certains risques, affronter certaines peurs.
Alors, je pense que c'est même peut-être la clé pour chacun d'entre nous. Quand à un moment donné, on a l'impression d'avoir gravi quelques échelons, quelques marches, quelques montagnes, bah, c'est parce qu'on est passé aussi par des périodes bien plus compliquées.
Ouais.
Et la prise de risque en fait partie. Certains qu'on reste dans sa zone de confort, l'évolution peut paraître quand même sûrement compliquée.
Toujours ouvrir des portes, quoi. Voilà,
en tout cas, s'autoriser.
Ouais.
Déjà, peut-être, la première partie, c'est se démarquer du mental,
ouais.
S'autoriser à dépasser une zone.
Quelques exemples de moments où vous êtes autorisé, vous?
Alors moi, le premier exemple, ça a été ma première expérience professionnelle. En fait, je viens d'un monde universitaire et en fait, mes premières positions d'un point de vue professionnel, je suis entré dans un grand cabinet d'audit qui s'appelait Arthur Andersen et où moins de 10% des gens étaient universitaires.
Ouais.
Donc, le premier saut déjà
était... tous des grandes écoles.
Grandes écoles de commerce, grandes écoles d'ingénieurs. Et donc, en fait, il y avait déjà un premier pas à franchir, qui aujourd'hui peut paraître à la fois facile ou moins facile suivant les gens.
Non, je crois que ça devient de plus en plus compliqué aujourd'hui parce qu'on base tout sur les grandes écoles alors que...
Bon, aujourd'hui, c'est les compétences véritablement.
Ouais.
On travaille beaucoup, parlait tout à l'heure de la partie neurosciences, on travaille beaucoup sur les soft skills,
ouais.
Donc le savoir-être. Et le savoir-être est essentiel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on s'autorise à faire? Savoir aller plus loin en ayant conscience évidemment de ce qu'on sait faire, savoir aussi, mais en tout cas à pouvoir aller plus loin.
Dans votre deuxième boulot aussi, je crois que vous avez pris des risques.
Alors, dans
une
le deuxième, c'est à l'international.
Ouais.
J'ai eu la chance de travailler dans une autre structure en passant plus du côté conseil chez PricewaterhouseCoopers Consulting. Et là, j'ai travaillé à l'international dans un groupe de transport maritime où il a fallu intervenir sur plusieurs pays sur la planète.
Donc, vous y connaissiez rien en transport maritime et rien à l'international.
C'est un petit peu ça.
C'est le postulat de départ.
Alors, globalement.
Et vous avez foncé.
Alors, j'étais dans une salle où, en tout cas, il y avait une très belle planisphère. Donc,
ouais.
Je voyais à peu près ce qu'était le monde. Transport maritime.
C'est déjà un bon début.
Je voyais à peu près ce qu'était un container. Mais de là à me dire qu'on pouvait mettre 6000 containers, par exemple, sur un porte-container, ça ne me parlait pas. Et pour autant, oui, en ayant des bons appuis aussi. Il faut savoir qu'au fur et à mesure qu'on ouvre des portes et que le champ des possibles s'ouvre, on a aussi des gens qui se présentent.
Ouais.
Et il faut savoir aller vers ces gens-là.
Synchronicité.
Une forme de synchronicité, oui, tout à fait. Jung en parle très bien, mais ça en fait partie, oui, tout à fait.
Troisième saut, quand vous êtes mis à votre compte, finalement.
Absolument. Donc, troisième saut, une fois qu'il y a eu la séparation de l'audit et du conseil suite à l'affaire Enron, notamment aux États-Unis, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir monter ma propre structure, travailler avec des clients avec qui je travaillais. Et là, finalement, aller conquérir quelque part des nouveaux marchés, notamment sur le Maghreb, notamment sur d'autres pays où finalement, on se rend compte que même si on n'est pas avec une grande carte de visite, si on n'est pas porté par une marque particulière, en fait, ce qu'attendent les gens, c'est principalement du livrable. Voilà ce qu'on leur apporte, la valeur, la proposition de valeur. Et finalement, les gens sont beaucoup plus ouverts et beaucoup plus à l'écoute, finalement, de bonnes idées dès lors où on les incarne. Donc, il y a une forme aussi d'incarnation de ce que l'on porte comme valeur.
Pour un entrepreneur, oui.
Pour un entrepreneur, absolument.
Et les accidents de parcours, comment est-ce qu'on en fait des forces? Je pense en fait à l'exemple de votre DG finalement, Jean-Christophe Conticciolo, qui a tout perdu et ensuite tout regagné.
C'est ça. Donc Jean-Christophe, en fait, il a tout perdu après avoir travaillé aux États-Unis et notamment donc lui, suite au malheureusement aux attentats qui ont eu lieu au mois de septembre en 2001.
Ouais. Il avait une agence web.
Il a
cartonné.
Qui marchait très bien. Il y a eu des investissements qui d'un coup d'un seul évidemment sont partis. Et en fait, comment on rebondit, ben justement par cette prise de recul. Alors cette prise de recul, elle vient aussi par son environnement. C'est-à-dire ce qui fait notre force, c'est quand même notre environnement personnel, notre famille, nos amis, nos enfants. Donc
puis vous dites qu'il fuse à 4000, lui, je crois.
Oui, dans une interview récemment, l'avantage c'est d'avoir énormément d'idées. Après, il faut un catalyseur. Donc c'est là où justement, nous, on en parle beaucoup avec Jean-Christophe. On a quelques personnes, on est 4-5 où on échange énormément entre nous. On a aussi cette forme de priorisation. Donc c'est bien d'avoir 4000 idées. À un moment donné, faut en trouver quelques-unes qui ont du sens.
La route déjà.
Voilà, mais en tout cas, l'avantage d'avoir 4000 idées, bah, c'est qu'on est tout le temps en fait dans cette dynamique qui permet d'aller vers du succès.
Donc lui, il est passé de jeune financier à succès à patron à 23 ans. Ensuite, il s'est cassé la figure. Et avec Womanity, finalement, il aide la plupart des sociétés du CAC 40 aujourd'hui.
C'est ça. À la fois, on pourrait penser que c'est une belle revanche. En réalité, il n'y a pas de notion de revanche. C'est plutôt qu'aujourd'hui, on fait bénéficier de notre propre prisme. Donc, on accompagne des entreprises qui ont, pour certaines, l'impression de ne pas pouvoir changer. Ou en tout cas, que le changement ne proviendrait que du haut. Ou à l'inverse, que ça ne viendrait que des gens du terrain. Et la réalité, c'est un peu des deux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un changement d'abord avant tout.
La vie.
C'est ça. C'est que d'abord et avant tout, ce qui est le vrai driver, c'est la culture, c'est le mindset, c'est notre état d'esprit.
Sortir de sa zone de confort.
Toujours sortir de sa zone de confort, ne rien considérer comme acquis. Et ensuite, et là, on va dire, malheureusement, l'actualité nous le montre avec ce qui s'est passé à Notre-Dame de Paris. Plus de 800 ans d'histoire est parti finalement en une journée. Donc oui, passer du temps finalement à prendre du recul et à se dire qu'il y a d'autres opportunités à faire et que finalement.
Le monde est mouvant.
Le monde des mouvements avec toute opportunité ou toute crise est une belle opportunité à reprendre. Et aujourd'hui, on le voit bien, il y a des belles solutions qu'on peut trouver. Toutes les entreprises sont bâties sur des personnes et les individus portent en eux finalement toutes les valeurs.
Est-ce qu'il y a des croyances comme ça qui vous ont aidé, vous, en tant qu'entrepreneur et aussi dans les grosses entreprises, à avancer?
Alors, il y a à la fois beaucoup de croyances qui sont souvent des freins, malheureusement, et les plus belles croyances qui sont des valeurs, c'est vraiment les personnes, c'est-à-dire faire confiance aux gens. On se rend compte qu'aujourd'hui, quand on veut trouver des solutions, le meilleur moyen qu'on ait de trouver des solutions, quel que soit le problème auquel on est confronté, c'est de mettre les gens en situation d'y réfléchir. Ce matin, j'animais un atelier exactement dans ce sens-là, dans une grande assurance, et finalement, les solutions sont venues des gens qui, dans le cadre alors de ce côté très gaming, de faire un jeu avec des post-it et des feutres, mais finalement, c'est eux qui ont apporté les solutions. Et ce qui crée la valeur, encore une fois, c'est vraiment l'effervescence entre plusieurs esprits et le fait de faire simplement. Mon travail, c'est plutôt de faire émerger des idées. Je suis une forme plutôt d'accoucheur d'idées. J'en produis pas véritablement en soi. C'est plutôt de l'accompagnement.
Vous avez dû avoir aussi beaucoup de culot ou pas pour avancer, hein.
Alors, je pense que ça, c'est essentiel, mais pour tout le monde et pour chaque auditeur qui va nous écouter, le culot est essentiel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut sortir de sa zone de confort, alors quelquefois, c'est le destin qui nous l'amène par une personne qu'on va rencontrer. Je peux vous donner l'exemple que j'ai eu lors de mon premier stage. J'étais en licence d'économétrie.
À la Banco d'Irma,
tout à fait. Pas très loin sur les Champs-Élysées. Et en fait, j'étais là pour 2 mois de stage. J'ai commencé dans un service courrier. Finalement, c'était presque amusant, simplement parce que je suis arrivé, moi, à l'entretien en costume et que l'autre personne est arrivée en jean. Il est parti aux moyens généraux et moi au service courrier. Alors qu'a priori, il n'y avait pas de raison plus que vestimentaire. Et après un mois passé dans le service courrier, je me suis rendu compte que je pouvais peut-être apporter autre chose. Et là, j'ai été voir en fait l'un des directeurs à qui j'amenais le courrier tous les matins en disant « je pense que je peux peut-être vous apporter autre chose ». Et finalement, il m'a mis au service des exportations.
Comme quoi, il faut oser, hein. Et sortir de sa zone de confort, c'est aussi aller chercher à l'international ce que vous faites aujourd'hui, beaucoup les innovations.
Alors ça aussi, ça c'est une des clés que j'ai découvert grâce à mon expérience chez CMA-CGM. CMA-CGM, c'est une société de transport maritime. Et en fait, l'avantage, c'est qu'ils sont basés donc partout sur la planète et qu'en fait, des idées, il en vient tout le temps. Et en fait, aujourd'hui, on a identifié via Womanity 2-3 zones dans le monde où vraiment il y a des initiatives.
Alors, dites-nous qu'on y aille.
Alors, une des plus belles initiatives, clairement, aujourd'hui dans le monde au niveau innovation et digital, c'est clairement l'Estonie.
Ouais.
Donc, il y a un très beau séminaire qui va se tenir dans 15 jours à Tallinn, qui s'appelle Latitude 59, où vraiment la plupart des grandes innovations, les premières startups viennent de là. Donc, vraiment, ils osent, justement, et même le gouvernement se met en situation pour pouvoir aider justement ces startups.
C'est marrant, l'Estonie. On ne penserait pas à la base.
On ne penserait pas, surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants, mais néanmoins, c'est une très, très belle base.
Très innovant.
Et c'est vraiment, c'est un endroit très innovant. On peut en tout cas aller s'y ressourcer.
Je crois qu'il y a le Liban aussi.
Hein. Et vous avez le Middle East. Globalement, tout le Middle East. Le Liban en fait partie, puisqu'il a une particularité géographique qui n'est pas évidente. Mais néanmoins, ils sont vraiment à la croisée des chemins. Vous avez à la fois l'Asie qui n'est pas très loin. Il y a l'Europe qui est proche également et il y a tous les pays du Golfe.
Donc ils mixent toutes les cultures.
Déjà, ils mixent toutes les langues en fait. Ouais. C'est un gros avantage, c'est-à-dire qu'on peut y aller même si on parle qu'anglais, on nous comprend. Si on parle arabe, on nous comprend. Enfin, même français, on nous comprend. Donc c'est quand même un gros avantage. Et c'est surtout qu'en fait, ils osent. Ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que c'est la clé. C'est-à-dire comment on crée des bonnes vibrations, en osant finalement.
Sortir du conformisme.
Sortir du conformisme, se permettre des choses, encore une fois, sans peut-être trop de prise de risque, parce qu'à un moment donné, il faut aussi être quand même dans une bonne démarche. Mais en tout cas, oui, oser aller plus loin et oser demander tout simplement, bien souvent, ce qui est la première des limites, c'est oser avoir un contact avec l'autre, puisque finalement, il est bien souvent beaucoup plus preneur de ce qu'on peut lui apporter, de ce que nous-mêmes, la première limite que l'on met, c'est la nôtre, quand même.
Ouais, c'est pas facile, il faut se donner un petit coup de pied aux fesses. Alors vous, trois conseils pratiques, pas pour se donner un coup de pied aux fesses, mais en tout cas, à mettre en application pour mettre des good vibes dans son entreprise et dans sa vie.
Alors, dans sa vie déjà, et dans son entreprise et dans son cadre, déjà peut-être sourire un petit peu plus.
Ah, ça va. Nous ici...
J'ai vu. Le sourire, ça coûte vraiment rien. Et ça apporte quelque chose d'extraordinaire pour celui qui le reçoit.
Dans les entreprises, vraiment, ça change quelque chose.
Pour tous les ateliers que nous, on a l'occasion de pouvoir mener, ou quel que soit. Donc, encore une fois, la réalité, c'est qu'on ne connaît pas la vie personnelle de chacun. Par contre, quand on arrive et qu'on sourit aux gens, en général, déjà, on apprécie. Et à partir de là, on peut partir sur des bonnes vibrations. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc,
c'est le bien sourire, qu'on apprenne ça aux dirigeants. Je valide. Deuxième conseil.
Ensuite, le deuxième, c'est aussi dans les termes que l'on emploie. Sur la manière de s'exprimer, on discute beaucoup. On a un gros apprentissage actuellement sur le fait de chercher finalement les causes et chercher finalement les coupables à une situation.
C'est-à-dire que finalement, il faut faire attention à son vocabulaire.
Exactement.
Et ne plus dire trop de pourquoi.
C'est ça. Le vocabulaire, c'est la clé. C'est-à-dire quand on demande à quelqu'un pourquoi il fait quelque chose, on le met en situation un petit peu quand même de gêne où il devrait quand même commencer finalement à se justifier. Donc juste changer deux mots. Le premier mot, c'est enlever les pourquoi par des comment. Ouais. Comment il est capable de le faire. Déjà, ça va lui donner une orientation vers le futur. Et le deuxième, enlever le mais, M-A-I-S, et le remplacer par un et. Et quoi d'autre? Le fameux un peu what else de la fameuse pub qui permet d'aller chercher autre chose de plus et qui est très positif.
What else?
Le what else.
Troisième conseil.
Alors, le troisième conseil, c'est dans les accords Toltec dont on parle beaucoup aujourd'hui. On a parlé des quatre accords Toltec. Il y en a un cinquième.
Et le cinquième. Don Miguel Ruiz.
Absolument. De Don Miguel Ruiz. Et qui est peut-être l'essentiel, ce cinquième, c'est surtout toujours prendre du temps pour remettre en cause ce qu'on nous dit et ce que l'on fait. C'est-à-dire de ne pas être, si je peux me permettre une expression, de ne pas être une forme de béni oui-oui.
Ouais.
Mais effectivement, alors pas pour autant être dans quelque chose toujours de contrariant, mais être dans ce qu'on appelle en anglo-saxon le constructive disagreement, être vraiment dans quelque chose qui nous permet de mettre en perspective et remettre finalement un petit peu en cause ce que l'on fait pour apporter de la valeur supplémentaire.
Ne pas accepter les noms. C'est aussi passer au tamis de la formule de Socrate, que vous connaissez bien, je crois.
C'est ça, je vous en avais parlé. La formule de Socrate est essentielle. C'est-à-dire que si par rapport à ces fameuses trois questions qui permettent de savoir est-ce que ça m'apporte quelque chose, est-ce que ça va apporter quelque chose à la personne ou est-ce que ça va apporter de la valeur globalement, on n'a pas de réponse positive, prendre un peu de recul par rapport à ça.
Merci beaucoup Stéphane, merci de nous ouvrir le champ des possibles et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain pour une prochaine Very Good Vibes.
Merci Christelle.
Very Good Vibes, un podcast Men's Up, 100% optimiste, 100% énergie. Rendez-vous tous les lundis sur toutes les plateformes de podcast.